Alors, j'ai quand même assez de mal à croire que t'aies compté les lunettes. Donc, sur 70 personnages qui sont sur le site d'Apple, il y a 40 lunettes, dont un monocle.
Ouais.
T'es un grand cinglé quand même.
Ah oui. Mais je me suis dit, quitte à... En fait, ce visuel m'interpelle beaucoup. Parce que tu te souviens que le premier visuel qu'il y avait, c'était juste le Mac qui s'ouvrait à la Craig Federighi, et la lumière qui illuminait un visage, et tous ces différents emojis avaient des lunettes. Et tout le monde disait, ah, les lunettes! Et en essayant d'interpréter les visuels les plus récents sur le site d'Apple, je me suis dit, bah écoute, on va faire de l'analyse de comptoir jusqu'au bout. Hein. Donc j'ai compté tous ces personnages parce que je me suis dit, bon voilà, chaque chose peut être un indice, même si depuis longtemps, en fait, c'est plus trop un indice ce qu'il y a sur. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été constant, en fait.
Non,
Ouais,
ouais.
on est d'accord. Et du coup, voilà, sur le... Alors, c'est très intéressant. Enfin, c'est pas du tout intéressant, mais du coup, dans ce... Si on estime que c'est intéressant, il y a deux visuels principaux. Il y a le visuel du site d'Apple, apple.com, et le visuel du site developer.apple.com. Ce sont deux visuels différents, l'un avec le laser et l'autre avec iMessage plutôt. Et le nombre de personnages est différent, donc il y a 70 personnages sur le premier, 61 personnages sur le deuxième, et sur le premier, il y a une majorité de lunettes, 40 personnes avec des lunettes ou accessoires oculaires, tels que le monocle, et... Sur le deuxième visuel, putain, en fait, je m'écoute, c'est parler, et j'ai l'air d'un fou, en fait.
T'es un grand, grand, grand malade. C'est tout ce que j'ai à dire.
Donc, ce qui note sera très nécessairement, et je pense de manière sûre et certaine, je pense qu'on parlera de macOS et d'iOS.
Écoute, non, je peux pas suivre là-dessus. Il se trouve que toi et moi, on a des lunettes, moi avant toi. Mais ce qui m'a toujours frappé dans les efforts de soi-disant diversité d'Apple, c'est que ça touchait tout, sauf une des diversités les plus communes, qui est les gens qui portent des lunettes. À tel point qu'il n'y a toujours pas d'emoji qui représente des gens portant des lunettes de manière qui ne renforce pas des stéréotypes. Tu as un emoji lunettes de soleil, tu as des emojis avec des porteurs de lunettes dans la posture du prof, dans la posture du geek, dans la posture du chimiste. Mais tu n'as pas, de la même manière que tu peux changer les couleurs de peau, de la même manière que tu peux changer les chevelures, de la même manière que tu peux changer les identités de genre, tu ne peux pas changer les lunettes, tu ne peux pas ajouter des lunettes à des personnages. Ce qui m'a toujours frappé. Donc là, je suis content d'avoir 40 lunettes sur 70 personnages. Parce que ça représente à peu près la réalité dans les pays développés. Mais alors, d'ici à y voir qu'ils vont annoncer des trucs sur la réalité augmentée, j'ai quand même un peu de mal.
Bon, en fait, si on se mouille pas, on peut très bien dire ça dans le sens où, depuis chaque keynote, maintenant depuis, on va dire, allez, 3 ans, il y a des passages sur la réalité augmentée. Je veux dire, à tout nouveau matériel lancé, à tout nouveau système lancé. Donc, oui, il y aura forcément un passage là-dessus. La vraie exergue, bien sûr, c'est iMessage. Enfin, en tout cas visuel, tu vois. Après, je sais pas si ça veut, enfin, si ça appelle quelque chose en particulier. C'était juste une esthétique, tu vois. C'est très possible, en
Je
fait.
sais pas trop, ils ont déjà tellement travaillé sur Message l'an dernier.
Ouais.
C'est quand même assez rare qu'ils travaillent sur la même application 2 années de suite, même si j'en serais très content, hein, parce que un des principaux reproches que j'ai à leur faire, c'est d'avoir quasiment abandonné les applications de première partie.
Ouais.
Et moi j'aimerais bien que... C'est très bien de parler d'iOS, de macOS, de tvOS, de watchOS, tout ça, mais si 2 minutes on pouvait s'arrêter. Se rappeler que c'est une conférence pour les développeurs et parler d'applications et rappeler aux développeurs que il fut un temps où les applications de première partie, les applications d'Apple, c'était un exemple pour les applications de tierce partie.
Une vitrine, ouais, c'est
Ce
vrai.
serait pas mal parce qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les applications de tierce partie qui font le travail. Et quand tu vois une application comme Photo, je m'y suis remis récemment après l'avoir abandonné, alors même que j'ai écrit un livre sur le sujet. Mais cette app qui était censée représenter un moment super intéressant dans le rapprochement des plateformes, et où c'était une des premières apps à l'époque, c'était le framework Firenze, qui est un lointain précurseur de Marzipan et de Catalyst. Alors que cette app a pendant un temps représenté un futur possible, aujourd'hui c'est une app, elle sait faire des choses sur iPhone et sur iPad, complètement hasard, le redressement de la perspective, qu'elle ne sait pas faire sur Mac. Elle sait faire des choses sur Mac, complètement au hasard encore une fois, la gestion des métadonnées, des tags, de la localisation, toutes ces choses-là, qu'elle ne sait pas faire sur iPhone et sur iPad. Mmh. Les bases de données de reconnaissance de visage, encore aujourd'hui, sont mal synchronisées par le cloud, et donc chaque appareil refait une partie du travail dans son coin. Alors que ça fait 2 ans, 3 ans qu'Apple nous explique qu'il faut faire des applications multiplateformes, il faut être capable d'avoir l'application iPhone, qui a des modules qu'on appelle des widgets, qu'on appelle une application tvOS, qu'on appelle une application watchOS et des complications pour l'Apple Watch. Cette application iPhone, elle est capable de grandir pour devenir l'application iPad. L'application iPad, elle est capable de grandir pour devenir l'application Mac. Les développeurs tiers, en tout cas les développeurs tiers historiques, je trouve qu'ils jouent plutôt bien le jeu, et pas Apple. Donc si on pouvait s'arrêter 2 minutes et mettre un coup de polish sur Message, qui est pas mal, hein, mais...
C'est pas encore ça.
Hein. Non, et puis on voit les limites justement de Marzipan, de Catalyst, parce que avoir pris littéralement les interactions de l'iPhone et de l'iPad et les porter sur le Mac, et par exemple introduire des choses comme l'appui long sur le trackpad ou des trucs comme ça qui sont pas du tout familiers du Mac user,
non.
Ça ne marche pas.
Non, ça marche pas.
C'est quand même une des très rares applications qui a des fonctions qui n'ont pas de raccourci associé.
Ah, c'est vrai ça.
Ou des fonctions qui peuvent être utilisées uniquement avec l'appui long ou le menu contextuel, le clic droit, enfin le clic secondaire, qui ne sont pas dupliqués dans des menus. Donc ça n'est pas une application Mac. Apple, qui fait la plateforme macOS, a une application qui n'est pas une application Mac. Et ensuite vient expliquer aux développeurs tiers, non, votre application elle est pourrie, on ne peut pas la laisser dans l'App Store. Donc ouais, encore une fois, quoi, si on pouvait juste prendre le temps 3 minutes de mettre un coup de polish là-dessus, surtout si c'est une année où on parle iPad, et que l'iPad est cette plateforme qui est entre l'iPhone et le Mac, et qui a le plus à gagner de l'unification fonctionnelle des trois plateformes.
Très clairement, ouais.
Et qu'on ait ce grand continuum des applications iPhone, iPad, macOS, avec des expressions différentes selon l'écran et les dispositifs d'entrée et de pointage. Si c'est une année où on met en avant, on met en exergue l'iPad et iPadOS, alors oui, il n'y a pas le choix, si on veut faire les choses correctement. Il va falloir s'arrêter 2 minutes, mettre un grand coup de polish sur toutes ces applications de première partie et remontrer, réexpliquer aux développeurs, regardez, ça c'est comme ça qu'on fait des applications, c'est comme ça qu'on fait des applications ambitieuses, c'est comme ça qu'on fait des applications qui tirent entièrement parti de toutes les possibilités de la plateforme, que ce soit Siri, les raccourcis, iCloud, la réalité augmentée puisque t'en parlais, etc. Le machine learning, enfin tout ce qu'il y a en plus maintenant qui est inscrit dans le silicium, qui est gravé dans le silicium avec Apple Silicon, et de dire voilà. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir des interactions natives pour l'iPhone, des interactions natives pour l'iPad que vous l'utilisiez avec les doigts, avec un Apple Pencil ou avec un clavier, et des interactions natives pour le Mac, qui est la plateforme, la seule plateforme maintenant, où on a un paradigme découplé, un paradigme indirect, avec la surface d'affichage d'un côté, puis de l'autre côté, les dispositifs de contrôle.
C'est vraiment super intéressant. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que... Enfin, c'est le pourquoi. Je me demande si à un certain moment, en fait, dans la trajectoire des développements des applications, tout le monde était tellement persuadé que le Mac allait devenir tactile et ce genre de choses, que Apple s'est peut-être cru obligé de montrer une sorte d'exemple un peu chelou en faisant les mêmes applications, mais de manière différente sur Mac et sur iOS, et ce qui deviendrait plus tard iPadOS. Et que maintenant, ils se retrouvent en fait confrontés à cette contradiction-là. Et maintenant, encore plus, évidemment, depuis que l'iPad est sur M1, mais même avant, bien sûr, il y a cette espèce de bicéphalie dont on avait déjà parlé auparavant dans un autre épisode dont j'ai oublié le numéro, mais comme si c'était deux entreprises qui faisaient des choses parallèles sans jamais se rencontrer, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Une des rumeurs... pour l'iPad, évoque l'arrivée des applications professionnelles d'Apple sur l'iPad.
Ce qui renforce mon point. Hein.
Oui, absolument.
Parce que si tu veux faire Final Cut Pro, Logic Pro et Xcode, il faut le faire correctement.
Oui, de toute façon. Et à l'inverse, je trouve que J'ai un peu un contre-exemple, mais juste un peu, je vais t'expliquer. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé GarageBand sur iPad.
Ouais.
À mon avis, c'est une application très puissante et en même temps, plutôt adaptée à l'iPad. Et c'est largement tactile, ce genre de choses, bon voilà. D'un autre côté, quand tu exportes un projet GarageBand pour iPad, c'est un projet GarageBand pour iPad qui doit être converti sur le Mac. Et je ne crois pas, ou alors c'est tout récent, qu'on puisse importer un projet GarageBand créé sur Mac à l'origine sur l'iPad. Je crois que c'est possible maintenant, mais qu'il y a des restrictions, notamment en termes de synthétiseurs, ce genre de choses.
Je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là. Mais c'est intéressant parce que, justement, c'est une application qui montre ce qu'il est possible de faire.
Exact.
Les fondations sont les mêmes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la rumeur sur Logic, elle est... ça fait des années qu'on annonce Logic, parce que c'est le même moteur que GarageBand. Donc si on est capable de faire GarageBand sur iPad, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire Logic sur iPad. Et on sait déjà faire de l'audio temps réel, on sait déjà faire du partage de bus audio entre les différentes applications, on sait faire tout ça. Mais c'est intéressant parce que cette application, ses bases sont les mêmes sur iPad et sur Mac. Tu peux échanger des fichiers dans une certaine mesure, tu peux relativement facilement passer d'une version à l'autre. Grosso modo, une fois que tu es dans l'interface de montage, ça marche à peu près pareil. Mais il y a des choses que tu ne peux faire que sur iPad, notamment la manipulation des instruments virtuels.
Exact.
Ou la manipulation tactile des amplis, ça ne marche que sur iPad. Parce qu'il n'y a que sur l'iPad que tu peux utiliser, évidemment, tes doigts pour contrôler directement tes instruments.
Tout à fait.
Ouais. Logique.
Et à l'inverse, les instruments, par exemple, je pense aux cordes parce que c'est le plus évident, où tu sais, tu as tes j'ai oublié le nom, mais les arrangements automatiques, tu vois, qui changent en fonction de... Voilà. Et ça, c'est exclusif à l'iPad. Tu peux les exporter en tant que piste MIDI, et du coup, ça exporte les réglages de la piste sur le GarageBand pour Mac, mais impossible de restituer la même chose. Tu ne peux pas rejouer la même chose sur le Mac. Il faudra refaire sur l'iPad et le réexporter sur le Mac, tu vois. Donc, il y a cette espèce de frontière. Je veux bien que la limite de l'interaction manuelle pose un problème, tu vois, mais c'est un problème d'ordre d'interaction, pas un problème d'ordre de technique, tu vois.
Parfois, c'est ce que tu veux. La meilleure application chez Apple pour montrer ça, c'est Logic Remote.
Oui.
Ou c'est pas j'oppose l'iPad au Mac, c'est j'utilise l'iPad avec le Mac. Et je tire parti des spécificités du matériel iPad qui est je peux utiliser mes doigts. Et donc, c'est facile d'avoir un pad de contrôle parce que voilà, j'ai 2 mains, 10 doigts dans la plupart des cas. Et c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser des pads ou de contrôler des instruments quand tu es sur scène. Directement, mais toute l'intelligence, toute la puissance, tout le rendu, tout le calcul, toute la préparation, elle est sur mon Mac, elle est sur Logic. Et ça c'est l'iPad première version quoi, c'est l'idée de l'iPad en 2010 quoi. Et quelque part, on a sauté à l'extrême inverse, qui est de dire on va faire tout pareil sur toutes les plateformes, sans jamais se demander ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est il y a un continuum fonctionnel, il y a un continuum de données, il y a un flux de données, parce que c'est iCloud qui unifie les flux de données. Il y a un continuum fonctionnel, parce que si tu as une fonction sur une plateforme qui génère tel ou tel type de données, il faut que sur une autre plateforme, tu puisses retrouver tes données. Il ne faut pas qu'il y ait de suppression de données, d'altération des données d'une plateforme à l'autre. Et c'est d'ailleurs encore un truc qui ne marche pas dans Photo, par exemple, puisque tu as non seulement des outils, mais des valeurs de curseurs de modification qui fonctionnent différemment sur iPhone et sur iPad que sur Mac. Donc ça ne marche pas. Mais bon, pour revenir à mon exemple, tu as iCloud donc, qui sous-tend tout ça et qui dit, voilà, les fonctions génèrent des données, ce sont les mêmes données, peu importe la plateforme. Et donc forcément, ça veut dire qu'on a à peu près une unification complète des fonctions sur les plateformes. Mais tu tires parti... des spécificités de l'iPhone qui est le truc que tu as dans la main dans la poche, de l'iPad que tu peux toucher directement, du Mac qui a un surplus de puissance parce qu'il va y avoir des Macs plus puissants, c'est certain, et qui a cette interface indirecte de contrôle. Et ce qui est terrible, c'est qu'Apple faisait ça très bien avant d'avoir les capacités logicielles pour le faire, faisait ça très bien en 2010, 2011, 2012, et c'est aujourd'hui les développeurs qui le font mieux qu'elle.
Puis sans compter les contradictions dans le discours aussi, je veux dire, il y a 4 ou 5 ans, Tim Cook qui disait qu'apprendre le code, c'est aussi important qu'une langue étrangère, et on attend toujours Xcode pour l'iPad, tu vois, enfin, c'est...
Mais Xcode, par exemple, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce que Swift Playground sur iPad est merveilleux.
Très bonne application.
Et c'est 100 fois plus fun que Xcode sur Mac.
Ah oui, beaucoup plus, je confirme.
Et notamment, enfin, les mécanismes d'autocomplétion dans Swift Playground sont quand même... c'est là que tu vois le pouvoir de la manipulation directe avec le tactile. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te débarrasses de certaines habitudes, parce que Xcode a derrière lui du passif, et notamment du passif d'Interface Builder et de Nextstep et tout ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand tu te débarrasses de tout ça et que tu essaies de créer une interface qui est nativement tactile? Et donc ça pourrait être super pour Xcode, tout ça. Par exemple, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute l'interface de signature, avec tout ce qui est la compilation, des choses comme ça. Est-ce que c'est fait sur l'iPad? Est-ce que c'est un nouveau service, par exemple, de compilation en ligne? Est-ce que... tu peux imaginer énormément de choses, et j'espère que ce ne sera pas uniquement on a pris Xcode pour Mac, qui maintenant fonctionne dans une seule fenêtre, et on a réduit la fenêtre pour la caser sur l'écran 13 pouces de l'iPad Pro. Parce que si c'est ça, ce serait quand même terriblement dommage.
Ah ouais, ce serait vraiment triste. Surtout pour la boîte qui a créé Swift, quoi, je veux dire, Flute.
Ce serait super important pour l'avenir de la plateforme en plus, parce que tu formerais une nouvelle génération de développeurs qui utilisent l'iPad, donc c'est eux qui vont produire les meilleures applications iPad.
Je pense qu'on peut en tout cas se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus trop en attendre de ce keynote.
Mais tu dis ça parce que tu ne veux pas être déçu.
Ouais, je crois. Non, en partie, mais d'un autre côté... Dans mes rêves les plus fous, tu vois, d'interprétation occulte des visuels de la WWDC, je me disais, bon voilà, une insistance quand même assez prégnante sur iMessage. Bon, actuellement, iMessage, qu'est-ce que c'est? Si on l'envisage comme application en tant que telle, c'est quand même quelque chose qui est doté d'un App Store, c'est relativement unique. C'est presque un système en fait à part entière, c'est au moins une plateforme. Je me souviens aussi des tentatives plutôt peu réussies, hein, c'est un euphémisme, de création de réseau social d'Apple, Ping, Connect, ce genre de choses. Techniquement, iMessage, c'est le réseau social qu'ils n'ont jamais lancé et qui a réussi extrêmement bien, puisque par défaut, c'est l'application de communication sur tous les appareils iOS, qui sont eux-mêmes plutôt nombreux a priori, donc c'est pas mal. Y ajouter des fonctions sociales, comme avec les applications actuelles, même si je doute quand même que ce soit très utilisé, hein, j'ai un peu un doute. Mais en tout cas, il y a un germe d'idées qui est pas inintéressant. Donc est-ce que ce serait quelque chose de pousser en fait iMessage dans une direction peut-être plus, justement, ouvrir plus iMessage peut-être aux applications tierces, tu vois, de là imaginer qu'ils veulent en faire une plateforme qui serait dans leur tête ce que Facebook aurait dû être, parce que enfin, je suis persuadé quand même qu'il y a une histoire affective qui s'est très mal passée avec Facebook, tu vois, il y avait cette espèce de connivence, même si je pense qu'il a quand même fantasmé pas mal Zuckerberg, mais entre Jobs et Zuckerberg, et puis ensuite ils se sont dit tiens, Facebook sera peut-être ça, donc on pourra compter sur Facebook, on se situe là, Facebook est devenu ce qu'il est, enfin a toujours été ce qu'il était, mais bon voilà, Tim Cook leur déclare la guerre, ce que tu veux, et du coup peut-être qu'ils ont envie de faire leur Facebook à eux, tu vois, de se dire ah tiens. Ouais.
Je vais te donner la killer feature.
Vas-y.
Tu es prêt?
Vas-y.
Les stories dans Message. C'est ce que tu veux. C'est déjà un réseau social. Je veux dire, ils sont fournisseurs d'une identité qui est ton identité sur Apple ou ton numéro de téléphone.
Et ton emoji.
Et ton emoji. Ils gèrent tous tes contacts. Comme tu dis très bien, il y a un App Store. Il y a des stickers, ce qui est quand même le plus important dans une messagerie.
C'est extrêmement important.
Le seul truc qui manque pour rivaliser Facebook, Twitter et les autres, c'est des stories. C'est tout.
Oh, le cauchemar.
Il fut une époque où toutes les applications finissaient par devenir Excel. Et aujourd'hui, toutes les applications finissent par intégrer des stories.
C'est vrai.
On aura des stories dans Mail un jour.
Mais Mail, l'application qui n'a pas évolué depuis 47 000 ans environ.
Depuis que Steve Jobs est mort. Mais de manière très sérieuse d'ailleurs, hein, c'était... Moi j'aimais bien Mail parce que tu sentais... tu pouvais entendre Jobs réfléchir avec Mail. C'était une application qu'il utilisait. Il gérait la boîte avec Mail. Il y a des photos où on voit Jobs à son bureau avec un G5 qui utilise Mail.
Sur un 30 pouces.
sur un 30 pouces. Non, puis c'était ça, c'est je veux qu'il y ait mes mails, je veux qu'il y ait mes notes... Et encore aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais on a la possibilité d'avoir des notes qui sont des mails dans un dossier IMAP, ce qui est immonde, mais Jobs voulait ça, donc tant que c'est là.
C'est quand même un peu contre nature.
C'est terrible. les flux RSS, parce qu'il voulait avoir ça dans sa tête. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on y revient. Hein. On a maintenant des services pour avoir les newsletters dans les agrégateurs RSS et les flux RSS par mail. Enfin, il y a donc finalement, c'est un tout ça est un éternel recommencement. Je serais quand même curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire avec le mail. Il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières années dans le domaine. Il y a Basecamp qui s'est tiré une balle dans le pied avec Hey, mais c'était pas inintéressant leur système de screening où tu pouvais recevoir tes mails et les filtrer avant même qu'ils arrivent dans ta boîte de réception et dire ça c'est de la liste blanche, ça c'est de la liste noire, ça c'est du spam. Mais je sais pas, de meilleures intégrations, parce qu'ils ont commencé un peu avec Siri, mais de meilleures intégrations avec les calendriers et les rappels, ce serait quand même pas inutile. Être capable de séquestrer les newsletters pour les mettre dans un dossier, dans un coin, que tu puisses y revenir quand t'as le temps, ce serait quand même pas mal.
Oh, tu m'étonnes. Tu sais la clear feature que j'attends, moi ?
Vas-y.
Ça serait marquer un message comme non lu.
Non, ce serait de marquer un message comme non lu pour plus tard.
Ouais, parfait ça.
Ouais, il disparaît de ton regard et il revient plus tard, comme faisaient certaines apps. Je crois que c'était pas notamment Sparrow qui faisait ça.
Pas impossible. Tu vois, j'ai toujours cru que la charge mentale était un concept de gauchiste. Et pourtant... il y a quelque chose avec plaisir. Il y a une réalité qui s'en rapproche. Je dois l'admettre à contre-cœur. Et c'est notamment les notifications me font une pression de malade. Je me rends compte. Et surtout les SMS, parce que peut-être même plus que les coups de téléphone. Et encore, je sais que je déteste les coups de téléphone. Du coup, le fait de pouvoir faire disparaître une notification pour la faire réapparaître plus tard quand ça t'arrange, j'aime beaucoup.
Ça, et puis quand même, c'est une application qui, dans un cadre professionnel, tu sens qu'elle n'est pas vraiment faite pour un cadre professionnel.
Non, c'est vrai.
Et je ne serais quand même pas contre qu'il y ait quelques petites fonctions de collaboration, que ce soit quand même beaucoup plus facile de se rebalancer les mails de l'un à l'autre. Ou même dans le cadre du partage familial, hein, pouvoir dire « Non, là, vous êtes gentil, mais ça, c'est mon épouse qui va traiter » ou « Ça, c'est pour les gamins » ou donc pouvoir se rebalancer les mails comme ça... sans que ce soit justement du transfert de mail, mais que ce soit géré par iCloud ou que ce soit géré par le système. Des fonctions de templating, être capable de répondre à quelqu'un quand tu fais du support client, toi qui fais ça à longueur de journée, ce serait quand même bon. Il y a de la marge, quoi.
Il y a beaucoup de marge.
Ok, hein, c'est mail, c'est une application chiante et tout ça, mais enfin, c'est une application que les gens utilisent, quoi.
Ouais, et puis, enfin... Oui, c'est ça, la livrée de base, personne ne va enfin, la majorité des gens ne vont pas penser à changer de client mail, et puis...
Ben si, mais justement, si tu as un débat aujourd'hui sur... on voudrait pouvoir changer les applications, donc le navigateur, ouais, le client mail et le navigateur, oui. C'est justement parce que les applications d'Apple ne sont pas à la hauteur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça permettrait aussi peut-être de tuer le débat de la même manière qu'ils ont tué le débat du jailbreak, tout simplement, en intégrant tout ce que le jailbreak faisait.
Oui. Changer le fond d'écran, wow.
Ouais, mais justement, il y a eu, on l'a vu notamment avec Raccourci l'application de David Smith, Widget Smith, avec les widgets et Raccourci. Pas mal de gens qui sont maintenant capables de redessiner iOS. Je me demande s'ils ne seraient pas capables d'ouvrir un peu les vannes là-dessus.
J'aimerais bien, je pense que pour le coup, il peut en sortir beaucoup de bons. Ouais. C'était un de ces rares moments de... une forme de joie pure un peu, tu vois, d'appropriation parfaite de la machine par les utilisateurs. Et très festif, très, très joyeux.
Vraiment. Et où les gens font des choses que la plateforme n'avait pas prévues.
Exactement.
Donc ça prouve qu'il y a encore du libre-arbitre, qu'il y a encore de l'espace pour qu'on puisse s'amuser.
En fait, ça m'a rappelé les stickers pour le MacBook, mais encore mieux. C'est ça, une intersection entre la liberté, la surprise et la joie qui en résulte, ouais.
J'ai un rapport de bug qui est ouvert depuis des années chez Apple, qui est sur Mac, on peut spécifier un dossier d'image comme source des fonds d'écran.
Ouais, je me rappelle.
Et donc du coup, tu peux dire, change l'image toutes les demi-heures, toutes les heures, peu importe. Tu ne peux pas sur iPhone et iPad. Ça fait des années que je relance le bug assez régulièrement et qu'on me dit oui, on va finir par le faire, mais il va vraiment falloir qu'ils finissent par le faire. Ou ne serait-ce que voilà, dire un dossier, un album dans photo. Des parents, ils ont des photos de leurs enfants, pouvoir changer au fur et à mesure de la journée les photos qui apparaissent, ce serait quand même cool. Et puis même sans aller jusqu'à ce que fait Google avec Material You, qui est quand même, où on redessine toutes les couleurs de l'OS 15 fois par jour. Ce qu'ils ont fait dans macOS pour les couleurs d'accentuation, ce serait pas mal qu'on ait la même chose. Juste pouvoir dire, tiens, moi j'aimerais avoir un iPhone violet, J'aimerais que l'OS soit teinté de violet. Et ils ont poussé ça avec l'iMac M1, où non seulement tu as les 6 ou 7 couleurs de macOS, mais en plus tu as la couleur spécifique de ton Mac,
ouais.
De ton iMac, qui est une couleur d'accentuation supplémentaire. Ce serait fun. Ce serait un peu plus de fun, et je vois pas Apple faire comme Material You, je les vois pas dire on peut tout changer.
Non, certainement
mais,
pas.
Donner un peu plus de latitude sur les icônes des applications, peut-être. Ne serait-ce que pour les développeurs, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'icône dynamique, et c'est chiant pour les applications de calendrier, les applications de météo, les choses comme ça, qui ne peuvent pas faire ce qu'Apple fait avec ses propres icônes. Et ouais, la couleur d'accentuation, moi j'aimerais bien pouvoir dire, ouais, voilà, j'ai un iPad vert, bah, ouais, j'aimerais que l'OS soit vert, ça pourrait être fun. Mais dans les fonctions faciles, qui coûtent pas cher et qui changeraient la vie, dans Messages, pouvoir remonter beaucoup plus facilement l'historique, avoir un moteur de recherche qui fonctionne correctement.
Seigneur.
Parce que là, moi j'ai 5 gigas de messages, c'est impossible de remonter en arrière, et la seule solution d'Apple, c'est supprime tout.
Oui.
Et non, juste non, je vais pas supprimer 10 ou 12 ans de conversation pour votre plaisir. Ça, c'est facile, quoi. Je le dis chaque année, hein, mais un jour ou l'autre, il va falloir qu'on puisse personnaliser les cadrans de l'Apple Watch.
Ouais.
Ce serait bien. Hein.
Gros sujet. Gros sujet.
Et je demande pas à ce qu'on soit capable de faire des imitations de Rolex. Hein.
Non.
Ils ont décidé que les aiguilles de l'Apple Watch devaient ressembler aux aiguilles des Patek Philippe. D'accord, il n'y a pas de souci. Enfin, pouvoir placer mes complications là où j'ai envie, du type que j'ai envie... donnez-moi une application. Donnez-moi un Watch Studio, une application Watch Studio, et de la même manière que je peux faire mon Apple Watch en choisissant mon boîtier et mon bracelet, laissez-moi choisir la couleur, le nombre de complications. Ce que fait Widget Smith avec les widgets, bah, je veux qu'Apple fasse la même chose pour les cadrans de l'Apple Watch. Point.
Exactement, ouais. Oh, ça viendra un jour, ça, quand même, je pense.
Oui, mais alors moi, contrairement à toi, j'ai décidé d'être ambitieux, ce sera cette année.
Donc on est à la version 7 de WatchOS, là, c'est ça?
Oui.
Ok, bon bah écoute.
Ça, et puis enfin, quand même, ce serait temps. Donc l'iPhone, il a fallu attendre 4 ou 5 ans avant qu'il devienne indépendant du Mac. Ce serait temps que l'Apple Watch devienne indépendante de l'iPhone.
Ah oh, oui, ce serait temps, c'est vrai.
Et qu'elle puisse s'activer toute seule.
Non, en vrai, j'ai super hâte. Objectivement, j'ai super hâte. Je veux dire, à 18h30, je suis devant ma télévision. Adrien est dans sa chambre, fermé à clé. Et je ne veux pas. Un pet de travers pendant une heure et demie que ça durera. Et j'ai très très hâte et je serai content que qu'elle arrive parce que je suis un peu une biatch. Mais la WWDC, c'est toujours un peu un moment particulier parce que ça devrait, comme tu l'as dit très bien, être sur le logiciel, le développement, sur les choses. Et mine de rien, ça a cette position un peu entre deux chaises parce que c'est aussi quelque chose qui est suivi par le public, beaucoup. Il n'y a pas tant d'événements Apple que ça dans l'année, tu vois. Donc,
Oui, le keynote introductif est vraiment grand public et c'est pour ça qu'ils font le deuxième keynote pour les.
Oui,
pour
qui
les...
est plus. Comment c'est s'appelle ouais. State of the Union ça
State of the Union, oui.
Ouais, ouais. Et du coup, ouais, j'imagine qu'ils essaient de trouver des choses. Ça va évidemment parler M1. Je pense quand même que ça parlera M. Etc.
Non, par contre, oui. L'an dernier, comme c'était le premier format virtuel, en fait, on avait presque plus glosé sur qu'est-ce qu'ils vont faire.
C'est vrai, oui.
Que sur le contenu.
Oui.
Et moi, enfin, je relisais mes notes de l'an dernier, notamment sur les notes sur Metro Zen Dodo. J'ai consacré beaucoup de temps à l'analyse de la scénographie. Et où c'est intéressant, parce qu'en fait, ce sont les seuls qui avaient... toutes les conférences qui avaient été faites jusque-là, c'était vraiment... on filme une conférence habituelle.
C'était plat.
Et c'était très très plat, ça marchait mal. Et là, c'est les premiers qui se sont dit non. Quitte à ne pas pouvoir recevoir du public, on va faire cette espèce de show hollywoodien là, qui marche très bien. Hein.
C'est très très bien.
Et où ensuite, les sessions étaient super bien, parce que t'étais vraiment one-on-one avec un ingénieur d'Apple, dans un cadre assez intimiste, c'était vraiment cool. Mais il y avait justement cette interrogation sur comment est-ce qu'ils vont s'y prendre et donc on avait presque la tête et puis je veux dire, on était crevés hein, juin on était lessivés après 3 ou 4 mois avec des heures avec des semaines à 70 ou 80 heures de boulot on était lessivés là cette année tu vois ça va on est en forme
ouais.
relativement on commence à pouvoir sortir la tête dehors on commence à être vacciné donc enfin même niveau mental c'est quand même cool
ouais
et il n'y a pas de doute sur ce qu'ils vont faire ils vont faire exactement comme l'an dernier. Et je veux dire, voilà, ça va être la quatrième ou le cinquième keynote à distance. c'est bon, quoi. On sait que ça va être un truc qui va nous en mettre plein les yeux, qu'il va y avoir la 3D dans tous les sens, que...
que ça va être drôle.
Ça va être chouette.
Ouais.
Et donc là, on peut se concentrer sur le contenu, et donc la perspective est complètement différente.
C'est vrai,
et ouais. Ça permet aussi d'être un peu plus attentif à ce qu'ils vont dire, à comment ils vont le dire, parce que la manière dont Apple annonce les choses est assez révélatrice, non seulement pour les annonces de septembre, mais pour la suite. C'est quand même pas pareil que l'an dernier.
J'aime beaucoup ce nouveau format quand même. Je pense que... Enfin, je suis même pas sûr que les événements me manquent plus que ça. Parce qu'à la fin, c'était quand même devenu des endroits où il y avait beaucoup de personnel d'Apple qui applaudissaient. Et où les démos étaient quand
oui,
même...
Il y avait la claque, oui.
Ouais. Et puis les démos étaient quand même pénibles, quoi. Juste pénibles. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est... T'avais une demi-heure où t'avais genre quelqu'un d'Epic Games, à l'époque où ils s'entendaient bien, qui expliquait comment jouer avec ce truc-là en réalité augmentée, réalité virtuelle et tout ça, puis personne ne comprenait rien. Et puis... Voilà, c'était moyennement intéressant. Toujours ce fond uniforme, noir, toujours... Là, c'est quand même tellement plus vivant, quoi.
Oui, il faut qu'ils trouvent... je vais m'exprimer en tant que journaliste, hein, mais il faut qu'ils trouvent un moyen d'inclure la presse.
Ouais.
Parce que... Enfin, qu'on ait le temps d'analyser... Enfin, qu'on ait le temps de faire notre travail, quoi. Parce que l'avantage, quand même, du keynote, c'était que y avait toute la partie « je peux m'approprier les produits, je peux rapidement faire un aperçu ». Parce que c'est quand même pas pareil, hein, quand tu couvres l'événement en direct et quand tu le regardes sans avoir à le couvrir. Je vous promets, hein, à la fin du keynote, les gens qui sont passifs devant le keynote, ils en savent plus que les journalistes qui ont écouté. Hein. Parce que nous, on est dans le feu de l'action, on doit écrire des trucs, on doit analyser des trucs, il y a des choses qu'on a ratées. Et donc avoir le temps de pouvoir toucher les produits après, ou dans les jours qui suivent, parce que souvent on se débrouille en France... Il n'y a qu'une poignée de journalistes qui sont envoyés en Californie, mais les autres, bon, quelques jours après, on est chez Apple et on peut toucher les produits, discuter avec des chefs produits qui viennent des États-Unis, des choses comme ça. Donc ça permet de commencer à digérer et d'avoir un peu du biscuit, quoi, pour faire notre travail derrière. Et là, ce n'est pas le cas. Où là, il y a vraiment... tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, ce qui, quelque part, pour nous, est très confort, parce que c'est très très facile aujourd'hui de faire tout le travail d'analyse, de faire tout le travail de couverture en direct et le travail d'analyse, parce que le rythme est cool, c'est assez resserré, ça dure trois quarts d'heure, une heure, donc c'est ça va, quoi. Mais c'est vrai que dans les jours qui suivent, on n'a pas accès aux machines. En plus, en ce moment, il y a des délais assez incroyables. On n'a pas accès, ou pas facilement accès, au vice-président d'Apple, au chef de produit, au chef marketing. Enfin, et du coup, venir apporter au lecteur, apporter au geek une plus-value, lui expliquer, aller au-delà de l'écran de fumée, quoi. Et puis là, vraiment, oui, de l'écran de fumée, quoi.
Très littéralement.
là, c'est dur. Et Apple, quelque part, s'est servi de cette occasion pour repousser d'un cran la presse, quoi.
Oui, et puis même peut-être encore un peu plus pernicieusement, appuyer encore plus sur la communication visuelle avec les youtubeurs et tout ça, en leur donnant accès à eux de manière privilégiée, j'ai l'impression, en tout cas.
Et dans des conditions complètement débiles.
Ah oui, absurde.
Parce qu'on leur dit, tiens, c'est jeudi, la levée de l'embargo, jeudi 14h, et quand on leur dit ça et qu'on leur donne les produits, c'est mercredi soir. Donc t'as pas de recul, t'as pas d'analyse. Et les petits youtubeurs, alors j'ai fini par arrêter de regarder parce que c'est pas intéressant, quoi. Mais le petit youtubeur qui se la joue avec le déballage et qui prétend qu'il a un avis sur une machine, qu'en fait ça fait 12 heures ou 24 heures ou 48 heures qu'il l'a, c'est le degré zéro du journalisme. C'est pas du journalisme, c'est de la com. C'est gala, parce que c'est quasiment que des gars à part Yves-Justine. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des amuseurs. C'est du divertissement. Et ils font la com d'Apple. Et Apple leur verse pas un sou parce que c'est une des rares boîtes qui paye pas les youtubeurs, donc ils se font doublement enfler, quoi. Et les gens sont dupes. Alors, sans vouloir sonner trop un peu corpo, sans vouloir sonner trop corpo, merde, quoi. Et après on vient nous expliquer, ah ben oui, mais vous les journalistes, il vous faut 5 jours de plus pour faire le test. Bah oui, mais nous on fait notre travail, nous on les teste, les machines. On se contente pas de lire la fiche technique. On se contente pas de régurgiter ce qu'Apple raconte, quoi.
Ouais, c'est ça le problème.
Donc, ouais.
C'est un peu gênant, ça, quand même.
Oui.